travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Je tiens d'abord à vous confirmer que notre camarade Nathalie Arthaud a recueilli plus de 500 parrainages et qu'elle sera donc candidate à la prochaine élection présidentielle du 23 avril. Oui, il y aura une candidate communiste dans ces élections présidentielles qui vise à désigner celui ou celle qui présidera la machine étatique chargée de défendre les intérêts des grandes familles bourgeoises, ces quelques dizaines de gros capitalistes milliardaires qui dominent la société française. Nathalie Arthaud, pas plus qu'Arlette Laguiller avant elle, ne se présente pour être élue présidente de la République, cette République bourgeoise qui opprime la grande majorité de la population. Nathalie Arthaud se présente pour permettre aux travailleurs de faire entendre leurs intérêts. Elle se présente pour faire entendre le camp des travailleurs, c'est-à-dire les intérêts des ouvriers, des employés, de ceux en invalidité ou à la retraite, ceux qui sont au chômage, au petit boulot, ceux dont les intérêts sont toujours méprisés. Elle est candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures, tout en étant de moins en moins payés, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits. Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail, de vie, doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes d'une minorité de capitalistes. Et il est d'autant plus vital de le rappeler au moment où l'écœurement et le dégoût ont été les sentiments les plus partagés par une grande partie des nôtres face au spectacle donné par les politiciens en lutte pour leur place. Le champion de la droite, Fillon, le pur parmi les purs, répétait sur tous les tons être au service exclusif de la France et prêchait l'austérité au reste de la population. La baisse des salaires, le recul de l'âge de la retraite, le licenciement de 500 000 fonctionnaires. Et il est apparu pour ce qu'il est, au service de ses petites affaires et d'abord soucieux de se remplir les poches en sautant sur toutes les occasions. On l'a vu se servir de sa femme, de ses enfants, pour récupérer 1 million d'euros. En plus, il a récupéré des centaines de milliers d'euros pour représenter, au mieux de leurs intérêts, ses amis milliardaires dans les commissions chargées d'établir les lois. Et ce n'est pas la bataille de chiffonniers qui a agité la droite pendant des jours qui a pu faire baisser ce sentiment de dégoût largement partagé dans les classes populaires. Après avoir dit sur tous les tons que Fillon était un menteur, un parjure, un homme indigne d'occuper les plus hautes fonctions de leur État, les mêmes ont jugé soudain qu'il n'y avait pas de meilleur candidat pour la droite. Fillon est bien à l'image de tous ses serviteurs qui considèrent qu'ils ne sont jamais assez payés pour faire le sale travail que la bourgeoisie exige d'eux contre la population travailleuse. Et puis, être payé à ne rien faire, c'est quand même bien le mode de vie normal de la grande bourgeoisie qui vit de l'exploitation des travailleurs et du pillage des fonds publics. Macron, lui, se présente comme l'homme nouveau. Il est passé de la banque Rothschild au cabinet de Hollande, dont il est devenu le ministre de l'économie. Il a participé à tous les mauvais coups contre le monde du travail, des lois dites Macron à la loi El Khomri, et il a distribué des dizaines de milliards d'argent public en cadeau au patronat. Et d'ailleurs, c'est cette politique que le candidat officiel du Parti socialiste, Hamon, a approuvée jusqu'à ce qu'il devienne frondeur et qu'il revendique maintenant pour l'essentiel. Quant à Mélenchon, il dénonce la finance, comme Hollande l'avait si bien fait en son temps. Mais il faut dire si on est prêt ou pas à la renverser. Car si Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses, la Ve République, les traités européens, il n'est pas question pour lui de renverser le pouvoir de la bourgeoisie, la propriété sur les moyens de production. Comme d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme. Mais les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. On est dépendant pour tout de cette classe qui possède les capitaux. Mélenchon, qui a été pendant 30 ans responsable, sénateur et ministre du Parti socialiste, se revendique de tout ce passé qui, de Mitterrand à Jospin, a été marqué par la politique anti-ouvrière de la gauche, par le reniement permanent de toutes les promesses faites la main sur le cœur. Car rappelons de ce qu'il en a été de tous ces programmes défendus par toute la gauche, du Parti socialiste au Parti communiste, de Mitterrand à Marchais, de Jospin à Robert Rue, de Hollande à Pierre Laurent. Le plus radical de ces programmes, ce fut le programme commun. Il prétendait changer la vie. Et cela s'est traduit, à partir de 1981, par la plus formidable agression contre le monde du travail. Ici même, dans le bassin crayois, à peine les nationalisations effectuées et les milliards donnés aux actionnaires des entreprises nationalisées, le gouvernement de gauche a fait fermer, tout près d'ici, PCUK, Pechina Eugène Kullmann, à Villers-Saint-Paul, avec ses 3500 emplois. Saint-Gobain, à Rantigny, avec ses 1200 emplois. Usinor, à Montataire, voyait ses effectifs fondre. Et quelques années plus tard, c'était la fermeture de Chausson, préparée par la gauche et achevée par la droite. Voilà ce qu'il en a été des programmes. Ce sont des miroirs aux alouettes destinés à attirer les votes des travailleurs vers leurs ennemis. Les seuls engagements qui vaillent sont ceux que ces prétendants au poste de président prennent envers leurs futurs maîtres, les banquiers, les grands industriels, la classe capitaliste. Là-dessus, ils ne lésinent pas. Tous promettent de continuer à distribuer des dizaines de milliards au patronat. Le Pen, pour la grandeur de la France, c'est-à-dire des patrons français, Fillon et Macron pour la compétitivité, Hamon et Mélenchon pour l'écologie et les nouvelles industries. Ces dizaines de milliards ne serviront pas plus demain qu'hier à réduire le chômage. Ils ne serviront qu'à augmenter la fortune des actionnaires au détriment des classes populaires. Macron appelle les électeurs de droite à voter pour lui car, dit-il, nous avons les mêmes valeurs. Il promet de supprimer l'impôt sur la fortune et pour combattre le chômage, de s'attaquer aux ressources des chômeurs, sans parler de son attaque promise sur les retraites. Quant à Hamon, lui qui prétendait faire rêver, en rabat à chaque apparition. L'ex-frondeur cultive maintenant le soutien de tous les ministres de Hollande, plus un mot contre sa politique. Et quant à sa mesure phare, le revenu universel à 750 euros, il est remis au calende grec, ramené à une simple revalorisation du RSA à 600 euros étendue à une partie de la jeunesse. Hamon a pris les habits de la dame patronesse, quittant une pièce de plus en plus petite aux pauvres. Mais ce n'est pas l'aumône que nous voulons. C'est une politique qui réponde à nos intérêts, Avoir un travail et un salaire, le droit d'être soigné, d'être logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation, le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises françaises, elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales. N'a-t-elle pas tenu à préciser qu'elle ne voulait en aucune façon demander aux employeurs d'augmenter le SMIC? Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidat anti-système pour en prendre la tête et faire fructifier la fortune des plus riches. Son discours envers les travailleurs consiste à présenter les travailleurs d'origine étrangère comme la cause de tous les maux. Elle prêche la guerre des travailleurs entre eux, la guerre des pauvres contre les pauvres. Cette division a été de tout temps l'arme des possédants pour affaiblir le monde du travail. Nous savons bien, nous, travailleurs, que sans notre unité entre ouvriers et employés, entre travailleurs nés en France et ceux nés ailleurs, nous serons livrés à la dictature patronale. Sur la question des migrants et des frontières, là encore, les principaux candidats sont d'accord. Ils veulent des frontières étanches. Et de nous répéter jusqu'à la nausée qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. Cette misère, ce sont les bourgeois qui la créent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et leurs bombes. Ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Nous, les exploités, sommes des migrants en puissance. Notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Ce poison de la division, il est vital de le combattre et de le rejeter. Non seulement la classe ouvrière de ce pays est une, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelle que soit son origine ou sa couleur de peau, mais elle est une au-delà des frontières. Notre classe, qui produit tout, qui est à la base de toutes les richesses, de toutes les avancées de cette société, est la seule classe qui peut mettre à bas ce vieux monde et jeter les bases d'une société nouvelle, débarrassée de l'exploitation. Mais nous ne pouvons accomplir cette tâche que si nous comprenons et prenons conscience que notre classe, la classe ouvrière, ne forme qu'une seule et même classe par-delà les frontières et les fausses divisions. Pas plus que les travailleurs émigrés, les travailleurs qui sont en Allemagne, en Pologne, en Chine ou en Afrique ne sont nos concurrents et encore moins nos adversaires. Notre sort est lié et nous ne pourrons aller de l'avant qu'en reprenant le mot d'ordre lancé il y a plus de 150 ans par la première internationale ouvrière. Travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Oui, il faut faire entendre nos intérêts à l'opposé de la politique pro-patronale des autres candidats. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de plus utile dans ces élections. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors, il n'y a pas de suspense. Les jeux sont faits. Celui ou celle qui sortira des unes en mer sera un ennemi des travailleurs. Pour les travailleurs, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans leur jeu. Mais on nous donne l'occasion, au premier tour, de pouvoir prendre la parole. Eh bien, n'en laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous. Disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste et mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commandes assurées et profits garantis. Nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie et une famille. Il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices. Et cela sous peine d'expropriation. Je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Et je sais qu'ils sont aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes et les banques soient mis à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible, immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge du travail a été accrue. Les horaires de travail, auxquels il faut ajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet. Et regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les hôpitaux ? Regardez la catastrophe de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque des millions accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons pas plus besoin de maçons, d'ingénieurs, de peintres en bâtiment ? Il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société et donc autant d'emplois à créer pour les satisfaire. Alors, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que le chômage est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. C'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors pour nous, oui, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. La CGT met en avant la revendication de 1 800 € par mois. Et il suffit de faire ses comptes pour comprendre que 1 800 € net, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et les pensions. Ces 1 800 € ne sont qu'un rattrapage. Il faut une augmentation minimale de 300 € de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. De bonnes âmes, très bien payées, expliquent que ce programme est complètement utopique et qu'il forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Nous parlons de 1 800 € par mois et on nous parle d'utopie. C'est donc de l'utopie d'espérer vivre sans avoir compté le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer des études à ses enfants, le permis. Dire que 1 800 € est de l'utopie, c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est d'attendre des augmentations d'un futur président de la République. Pour y parvenir, il faudra renouer avec les luttes collectives et imposer un nouveau rapport de force avec le patronat. La société est riche, très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur le profit des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et au besoin sur leur fortune accumulée au détriment des travailleurs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, la loi est faite pour les couvrir. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence, au moindre entretien d'embauche, à la moindre lettre de motivation. On est inspecté sous toutes les coutures et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Idem pour les chômeurs qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, fournir des preuves, justifier de leur demande s'ils repoussent un rendez-vous. Alors oui, il faut demander des comptes à tous ces politiciens et plus décisif encore, les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, les travailleurs savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG parce qu'elle la prépare, la tape et l'envoie. Je parle d'une vraie assistante. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans et hors de l'entreprise. Les patrons le savent et le craignent. C'est pour cela qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Il faut revendiquer de supprimer ce secret des affaires. Alors, voilà notre programme. Ce n'est pas, comme pour tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat et nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation. Nous appelons les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour Nathalie Arthaud. Nous les appelons à faire un vote de classe et de combativité. Oh, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et le combat politique. Le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens. Alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis bien longtemps. Le vote pour Nathalie Arthaud permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent après les élections. Car les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts au moment des élections, ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence contre la politique anti-ouvrière relayée par les gouvernements. C'est cela le rôle du parti. Alors, il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font fonctionner toute la société. Voter, ce n'est pas encore construire un parti, mais c'est déjà se rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvements de grève en manifestation, cela participe de la construction du parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire un parti pour les travailleurs. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour Nathalie Arthaud sans craindre d'être minoritaire et à contre-courant. Encore une fois, à quoi sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012 ? Et il faudrait recommencer avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, pour essayer de se protéger, est un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. C'est se soumettre et c'est déserter. Car si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas de moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester. Parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne, est un geste à la portée de tous. Il n'y a pas de petit combat, pas de petit geste. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Au lendemain de l'élection, rien de fondamental n'aura changé. parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition, et pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez, faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. Votez et faites voter Nathalie Arthaud. Et avant de passer à la suite, on va marquer cela par le chant traditionnel des travailleurs, l'International. Debout les dames de la fer, debout les forces de la faim,